Auditeurs de RDWA, bonjour à vous. Ici Louis. Je suis en compagnie d'Olivier de Sepibus, un artiste plasticien qui va vous présenter son projet d'atelier stage de construction de cabanon en paille et terre, un projet qu'il a conçu avec l'architecte Luc Seva. Cette construction va avoir lieu le week-end du 26-27 juin à Truchard-Rady.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Parle-nous tout simplement de ton projet, Olivier.
Donc c'est l'idée de construire une micro-architecture que j'ai appelée la cabane à rêve. Et cette micro-architecture mesure à l'extérieur 3 mètres sur 3. L'intérieur, elle sera de forme cubique, donc mesurera exactement 2,30 mètres sur 2,30 mètres. Mais de l'extérieur, elle mesurera pas forcément, elle sera pas forcément de forme cubique. Là, les côtes sont à peu près 3,10 m sur en hauteur peut-être 2,90 m, quelque chose comme ça. C'est une construction en paille et terre. Nous invitons donc les gens qui veulent s'initier à cette technique de venir participer au stage. Et en même temps, ce stage aura une dimension sensible puisque c'est une œuvre d'art. Et elle aura aussi une dimension, peut-être un volet plus...
Mystique.
Ben justement pas. Militant. Terre à terre. Puisque c'est relié à une initiative prise par des Indiens en Amazonie, qui s'appelle les Indiens Quichua, qui se trouvent dans l'Amazonie donc équatorienne. Et ces Indiens sont menacés par l'intrusion des compagnies pétrolières sur leur territoire. Ils menacent l'intégrité de leur territoire en faisant des sondages de pétrole. Donc ils mettent des charges extrêmement importantes de dynamite dans le sol. Et à l'explosion, ils mesurent les ondes et selon les ondes, ils voient s'il y a du pétrole sous terre et, ou pas. Et, mais bon, ces charges de dynamite mettent sur des dizaines et des dizaines de kilomètres carrés à l'alentour tous les arbres à terre. Donc c'est d'une destruction terrible. Et donc ces Indiens luttent physiquement contre ces compagnies pétrolières et, qui sont Elf, BP, enfin bon, c'est nous, hein, les compagnies pétrolières, c'est pas des gens très différents de nous, puisque chaque jour on met du pétrole dans nos voitures pour se déplacer. Donc ces gens ont décidé de construire une frontière qui s'appelle la frontière de vie et ils plantent des arbres qui font des fleurs géantes et donc à la périphérie de leur territoire sur un périmètre de 200 km. Et donc on verra du ciel d'ici une dizaine d'années un cercle fleuri. Voilà. Et donc c'est la création d'une œuvre de land art monumentale. Et il y a une association qui est en lien avec cette ethnie. À Paris, cette association s'appelle Parole de Nature. Ils relaient depuis plusieurs années leur initiative. Parole de Nature a invité donc le chaman en France. Et la rencontre entre ce chaman et des artistes qui étaient présents lors de cette rencontre, parce que cette rencontre a eu lieu à l'espace Krachberg, qui est un espace dans un musée à Paris qui s'appelle le musée Montparnasse, qui est un petit musée extrêmement beau. Et à l'intérieur, il y a un espace qui s'appelle l'espace Krachberg. Et Krachberg est un artiste brésilien. Il n'a pas un nom brésilien, il est d'origine polonaise, juif polonais. Et c'est un artiste incroyable puisqu'il a échappé à la barbarie nazie. Et maintenant, c'est un homme qui a 88 ans. Et il est passé par Paris dans les années 40-50 et il est allé après au Brésil. Et arrivé au Brésil, il a découvert, il a rencontré la destruction de l'Amazonie et il en a fait, il récupère les arbres morts d'Amazonie pour en faire des pièces d'art qui sont absolument magnifiques. Et, voilà. Et c'est un homme extrêmement, on va dire, militant.
Alors revenons-en à la cabane. Le lien entre la lutte contre les compagnies pétrolières et la cabane.
Ben, le lien est très simple, c'est que il y a d'un côté, il y a plusieurs protagonistes, on va dire les protagonistes indiens. Le protagoniste artiste brésilien, M. Krachberg, pour lequel il y a un espace dans le musée Montparnasse à Paris, qui lui est dédié. Le protagoniste Parole de Nature, qui est là, et puis des artistes. Et tous ces gens se retrouvent en un même lieu, à un même endroit, à un même temps, à l'espace Krachberg, au mois de septembre dernier. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez magique entre M. Krachberg qui était présent, le chaman Quichua, et les artistes qui étaient présents. Et les artistes décident de façon tout à fait volontaire de créer un collectif dans lequel chaque artiste dédie une de ses œuvres à un arbre planté de la frontière de vie. Et en fait, c'est un lien symbolique qui est créé entre des personnes qui se sentent concernées par la lutte des Indiens et donc des personnes en France qui créent un lien symbolique entre une œuvre d'art en Europe, en France, et une œuvre d'art monumentale qui est en train de se créer en Amazonie. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on n'est plus dans un rapport ni d'aide, ni d'une ONG, enfin, voilà, qui peut venir en aide, voilà, à une ethnie ou à des gens qui sont dans une demande. Là, c'est presque le contraire qui se passe. C'est une ethnie en Amazonie qui propose un échange avec des artistes en France. Et donc moi, j'ai été sollicité par Parole de Nature pour faire partie de ce collectif. J'ai accepté tout de suite. Et donc l'œuvre qui va être créée ici à Die, La Cabane à rêve, va être dédiée à un arbre qui sera planté sur cette frontière de vie. Et donc il va y avoir un lien symbolique créé entre cette cabane et la frontière de vie. Voilà.
Est-ce que l'architecture de cette cabane est issue de l'architecture des Indiens Quechua?
Non, alors pas du tout. Le matériau est un pailleter. La forme est un cube et la dimension du cube est de 2,30 m. Et j'ai pris la cote du modulor de Le Corbusier qui est de 2,26 m. Bon, je l'agrandis un petit peu à 2,30 m. Et le modulor est une dimension que Le Corbusier a établie pour créer après, pour dimensionner donc ses appartements et les immeubles. Et si on va à la Cité Radieuse à Marseille, toute la Cité Radieuse, les appartements ainsi que le bâtiment, sont proportionnés à cette taille de 2,26 m, qui correspond à un homme les bras en l'air. Voilà. Donc si on prend un cube de 2,26 m, c'est le plus petit volume dans lequel un homme ne va pas se sentir à l'étroit. Ça, c'est théorique. Mais bon, du coup, moi, j'ai pris cette théorie un peu à la lettre. Et je crée donc un cube de 2,30 m. À l'intérieur, ça va être peint d'une couleur rouge, d'un rouge que dans le. Enfin, je recherche encore ce rouge. Et il y aura une ouverture au plafond, donc une ouverture de lumière, un puits de lumière qui viendra du plafond, et une plaque en inox au sol. Et tout le reste sera recouvert de rouille.
Alors j'ai vu que tu t'étais associé avec un architecte, Luc Seva.
Ouais.
En quoi était-il nécessaire, cet architecte?
Ah ben, moi, ça faisait longtemps que je cherchais la collaboration d'un architecte parce que, tout simplement, je n'ai pas les compétences pratiques pour créer un cube en pailleter. Ça, je ne sais pas le faire. Donc, c'était intéressant de rencontrer Luc, enfin, qu'il s'est mis à la disposition totale du projet. Et voilà, et c'est lui qui a fait le plan et c'est lui qui est, on va dire, le chef de chantier.
Alors,
Le
toi, tu
seul.
apportes quelles compétences alors?
Ah ben moi j'apporte, c'est moi qui a conçu le projet, et donc le projet artistique, c'est moi qui en suis le créateur. Mais disons que l'association avec un architecte tel que Luc, enfin, c'est vraiment une association, parce que du coup lui il y amène aussi toute la dimension. La construction se fait aussi dans un certain état d'esprit, donc de matériaux trouvés sur place, la terre elle est directement prélevée de l'endroit où on le fait, voilà, et il y a tout un esprit comme ça. Qui fait que c'est grâce à Luc qu'il peut y avoir une véritable cohérence du projet.
Excuse mon côté pratique, mais cette cabane, outre qu'elle va être en connexion avec le cercle fleuri en Amazonie, elle aura-t-elle un usage? Ce ne sera pas un abri de bus, par exemple.
Ben non, on n'en est pas encore à l'abri de bus. Ben l'usage, voilà, c'est une pièce d'art.
D'accord.
Voilà, elle sera ouverte au public. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est que. Je travaille essentiellement enfin, je crée essentiellement des œuvres dans la nature. Donc, c'est vrai que c'est un mouvement artistique qui est apparu dans les années 60, donc le Land Art. Et maintenant, voilà, il a beaucoup de ramifications différentes, ce qui fait que mon projet artistique n'est plus réellement dans le projet Land Art. Mais disons que j'en suis une des ramifications. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des œuvres d'art qui sont en dehors de galeries, en dehors des musées, en dehors de tout un réseau institutionnel bien établi en France. Ce sont des œuvres qui échappent à un réseau qui légitime l'œuvre. C'est-à-dire que quelque part, c'est à l'artiste de créer, enfin, c'est pas quelqu'un d'autre qui va dire, voilà, ceci est une œuvre d'art. Je passe pas par un conservateur, je passe pas par une pièce reconnue en tant que telle, ou un curateur, un commissaire d'exposition, je passe pas par quelqu'un qui va dire, ah ben voilà, je vous présente un monsieur qui est artiste et il fait des œuvres d'art. C'est moi-même qui autoproclame mon travail œuvre d'art, dans des endroits qui ne sont pas des lieux d'art. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça interroge plein de choses. Ça interroge l'œuvre d'art, qu'est-ce que c'est? Ça interroge les lieux d'art aussi. Avec des matériaux qui ne sont pas nobles, qui sont des matériaux très rustiques, qui ne rentrent pas non plus dans toute une grande tradition artistique et en milieu rural.
Il n'en reste pas moins vrai que ce sont des matériaux peu nobles, mais elle est censée durer, ta cabane. Elle
Ah,
va.
bah la noblesse n'enlève pas, heureusement.
Donc elle est prévue pour durer un certain nombre de générations, peut-être.
Non, alors oui, non, alors malheureusement, les petits moyens que j'ai ne me permettent pas de créer une œuvre qui soit très pérenne. En gros, on pense qu'elle durera maximum dans 4-5 ans. D'ici
D'accord.
5 ans, il faudra réfléchir à quoi en faire. Disons qu'elle repose sur des palettes, tout simplement, hein, et que la palette est le problème, pas le problème de la construction, c'est les fondations. Des fondations pérennes, c'est des fondations coûteuses. Et comme on a très très peu de moyens, on fait ça beaucoup à débrouillardise, système D et au volontariat. Voilà, le bon système que j'ai trouvé, c'est la palette et malheureusement, elle pourrira d'ici 4-5 ans, quoi.
Comment es-tu venu au Land Art en fait? Quel est ton parcours un petit peu?
Alors moi, j'ai fait pendant longtemps une bonne quinzaine d'années de photographie, de reportage. Il y a une quinzaine d'années, alors voilà, j'habitais dans le Vercors et j'avais commencé à faire des photos de forêt. On va dire avant, j'habitais dans les Hautes-Alpes et je faisais beaucoup de montagnes, etc. Donc je suis quelqu'un qui a plutôt beaucoup vécu dans la campagne, en ruralité. Et donc, de fait, il y a une sensibilité à la nature qui s'est faite, naturellement, on va dire. Là-dessus, voilà, j'ai eu mon parcours de photographe de reportage, plutôt documentaire, social. Et puis, à un moment donné, il s'est trouvé que j'ai découvert le Land Art. Il y a eu un basculement dans ma vie. Et j'étais encore à la recherche de quelque chose qui me motivait vraiment, bien que le reportage était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et à un moment donné, voilà, j'ai rencontré le Land Art, ces artistes qui faisaient des œuvres dans la nature. Ça a été. Ouais, c'était une révélation, quoi. Et je me suis mis tout de suite et ce qui est très bizarre, c'est que des idées, tout de suite, des idées me sont venues. Enfin, j'avais ça au bout des doigts, on va dire.
Est-ce que tu as essaimé quelques œuvres dans le Diois?
Alors, c'est la première dans le Diois. Ou sinon, il y a un certain nombre d'œuvres qui se trouvent dans les Hautes-Alpes, à Névache, derrière Briançon. Un parcours qui s'appelle le Champ d'altitude. Et quelques-unes qui sont dans le Queyras aussi. Et dans le coin, voilà.
Qu'est-ce que c'était au juste alors?
Champ d'altitude, c'est mon premier travail. C'est une série de cubes d'1,20 m de côté, construits de façon différente. En fait, c'est un travail paysager. Donc, c'est l'installation paysagère, donc des cubes qui sont soit pierre sèche, soit en bois, rondin de bois, pierre bois, voilà. Et c'est un parcours, je pars du village pour monter à un col. Et il y en a comme ça. Photographiquement, il y en a 9, mais il y en avait de très éphémères qui ont disparu, puisqu'il y en avait certaines en glace. Donc, elles existent encore en photo, mais réellement, physiquement, il y en a 4 ou 5 qui existent encore, quoi.
D'accord.
Voilà.
Oui, il y a le côté éphémère, souvent dans le Land Art, les œuvres ne sont pas forcément censées durer éternellement, quoi.
Bah, l'éternité, c'est toujours difficile à s'y confronter. Mais après, l'éphémère, non, il y a beaucoup d'œuvres du Land Art, justement, américains. Eux, ils ont fait des œuvres qui existent toujours et elles sont. L'idée n'était pas du tout la question de l'éphémère. D'ailleurs, ils ont construit des œuvres monumentales avec des bulldozers. Ils ont bougé des centaines de milliers de mètres cubes. Donc, non, non, l'idée. Disons qu'il n'y avait pas de projet écologique au début, dans les années 60. C'était un projet artiste, purement artistique et il n'y avait pas la question écologique. La question écologique est arrivée dans les années 70, donc c'est une des branches du Land Art. Et puis maintenant, dans les années 80-90, la question écologique a rencontré le Land Art. L'éphémère, ça veut dire quoi? C'est une seconde, 2 secondes, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Je sais pas trop ce que c'est l'éphémère, quoi.
Concrètement, alors ton atelier va se passer le 26 et 27 juin.
26 et 27 juin, voilà.
Voilà, tu as déjà des inscrits?
Il y a des. Ben voilà, il y a les personnes que je connais qui me disent qu'ils vont venir, qui ne sont pas inscrits directement. Puis voilà, il y a quelques inscrits que je ne connais pas. Ça fait plaisir qu'il y ait des inconnus qui se joignent à nous, quoi.
D'accord. Tu vas rappeler tes coordonnées, comment faire pour te joindre, pour qu'on puisse se mettre en rapport
Donc,
avec
ben
toi?
voilà, les coordonnées, c'est. Le téléphone, c'est le 06 86 16 93 92. Ça, c'est mon numéro de téléphone. 06 86 16 93 92. Ou sinon, envoyez un mail sur mon site. Donc, le mail, c'est info au singulier arrobase olivier, tiret le tiret du 6, 2, DE, mon nom, tiret Cepibus, SEPIBUS.com.
Est-ce que tu peux nous parler un peu du programme de la journée, alors des deux journées, comment ça va se passer?
Alors les deux jours, là on a posé la structure en bois. Le samedi matin, quand les gens arriveront, on va commencer vers 10h, on va poser les bottes de paille sur la structure en bois. Selon le nombre que l'on sera, ça peut prendre 2-3 heures, pas plus, hein. Ça peut être très rapide. L'après-midi et le dimanche, là c'est la partie la plus longue, on posera la terre autour et on posera le toit. Et le toit, ça sera assez technique parce que le toit est plat et on fait un faux toit à l'intérieur incliné en fait. Mais de l'extérieur, ce sera un toit végétalisé plat. Donc ça, on passera pas mal de temps là-dessus. Mais après, il y aura plusieurs ateliers qui seront ensemble, on va dire. On pourra mener plusieurs choses de front. Voilà. La pose de la paille, en même temps, on commence à humidifier la paille, préparer la terre, et en même temps, la porte sera en feutre. Donc, il y aura aussi une pièce de laine à feutrer. Donc, des personnes pourront faire ça. Donc, et puis, il y aura le toit aussi à faire une fois que toute la paille sera posée. Donc, voilà, les gens pourront tourner d'un atelier à un autre. Et je pense que, voilà, on va largement pas s'ennuyer.
Ouais, je vois qu'il y a un prix qui est libre.
Voilà, moi j'ai des frais sur ce travail-là, et on va dire que c'est sur le système de l'échange. Alors selon les motivations des personnes, certains vont venir apprendre une technique réellement. Donc ils peuvent se sentir redevables, même financièrement, et donc participer aussi au remboursement des matériaux que j'ai achetés. D'autres vont venir, connaissent déjà un peu plus la technique, etc. Et ils viennent simplement par pure sympathie avec le projet. Et ils viennent donner leur force et leur sympathie. Donc là, l'échange sera juste à ce niveau-là. Puis voilà, il y aura des gens qui pourront se permettre d'y participer financièrement, d'autres non. Donc voilà, c'est quelque chose que je laisse ouvert. Au début, j'avais fixé un prix. Puis finalement, après discussion... On s'est rendu compte que c'était rédhibitoire. Donc autant que les gens viennent, ceux qui veulent y participer, qu'ils viennent. Et puis après, ben voilà, je pense que peut-être que c'est nouveau, c'est neuf. Enfin, c'est nouveau sur... Enfin voilà, les gens n'ont jamais vraiment fait ce genre d'atelier. C'est vrai que si c'était un stage professionnel, le stage coûterait 500 euros quoi, le week-end. Hein, apprendre la technique pailletaire professionnellement, enfin... Il y a des associations qui proposent ça. Le week-end, c'est peut-être pas 500 euros, mais bien 200 euros au minimum.
Et je vois qu'il faut prévoir son pique-nique.
Prévoir le pique-nique, bien sûr. Si on reste le samedi soir, venir avec quelque chose à mettre sur le feu, puisqu'on va faire un barbecue. Donc, les végétariens, ben voilà, c'est qu'ils viennent avec une courgette à cuire, et les autres avec une saucisse, voilà.
Très bien. Olivier, juste une dernière petite question avant de te quitter. Pourquoi tu l'as appelé la cabane à rêve?
Je me suis aperçu que tout mon travail, finalement, reposait sur la création de l'imaginaire. Peut-être que c'est même le projet de l'art, peut-être, quelque part. C'est ce qu'appelle un artiste Robert Filliou, que j'adore, un très très grand artiste français. Et Robert Filliou avait tout un tas d'œuvres, il appelle ça des open mind, des ouvertures d'esprit. Voilà. C'est pas s'ouvrir l'esprit comme si on avait l'esprit fermé. C'est quelque chose, à un moment donné, il y a une rencontre et l'esprit s'ouvre. C'est très étrange, c'est un sentiment très personnel. Alors voilà, donc Cabane à rêves, c'est le lieu où des rêves, c'est le lieu de création de rêves. J'aimerais que ça soit le lieu où on y va pour les rêves sont en germe.
Très bien. Eh bien, super, Olivier.
Je te remercie.
J'espère que tu auras plein de monde à ton atelier.
De toute façon, après, l'œuvre et le travail sera ouvert. Donc, nous ferons certainement une manifestation pour l'ouverture de la cabane à rêve. Donc, tu seras de nouveau convié. Et elle sera ouverte au public. Et ce sera fléché depuis 10 et que tout le monde pourra y aller et aller rêver à l'intérieur.
Super. Merci, Olivier.
Merci.
Au revoir.
À bientôt.